Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui se réinventent face à la crise. Vous allez voir que des acteurs de la société prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises. Ensemble, on va en parler avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à toutes et tous. C'est un des secteurs où la France étincelle. Nos marques de joaillerie font rêver partout dans le monde entier. Et parmi elles, il y en a une, peut-être encore plus que d'autres. Chaumet, né avec Napoléon et Joséphine, le joaillier de l'empereur, au style épuré, intemporel et plus que jamais aux avant-postes, le patron de Chaumet est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, la joaillerie raconte une histoire française et elle devient aussi éthique et responsable. Gros plan sur cette nouvelle forme de joaillerie avec la fondatrice de GEM, J-E-M, qui intègre dans toutes les filières de production des bijoux une démarche environnementale.
Tous les grands joailliers ont pour point commun la place Vendôme, et ce depuis le début du 19e siècle. Pourquoi cette place Vendôme? Comment est-elle née? Ce sera notre saga du jour. Dans la France bouge vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu la crème libre, une marque de soins naturels et rechargeables. On écoutera le pitch de sa fondatrice à 13h45.
Et demain au travail, on passera un coup de fil au groupe SQLI. Là-bas, on forme les collaborateurs tout le temps. On vous en parle à 13h50.
Allez, bienvenue dans la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, la France bouge partout et notamment dans ce monde de la joaillerie. On en parle avec notre grand témoin du jour.
Bonjour Jean-Marc Mansvelt.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de Chaumet. Chaumet, c'est 240 ans d'histoire. C'est le joaillier de Napoléon et de Joséphine. Après une histoire mouvementée, vous appartenez depuis 1999 au groupe LVMH. Jean-Marc Mansvelt, est-ce qu'en ces temps troublés, on se reporte tout naturellement en ce moment sur la joaillerie?
Ah, je pense que depuis l'année dernière et tous les épisodes que nous avons vécus, la joaillerie a pris encore plus de sens. C'est important de témoigner à l'autre qu'il est important qu'on passe ensemble une épreuve, un moment difficile, qu'on surmonte les difficultés, et c'est le meilleur objet, le meilleur témoignage de cette importance de la personne avec qui on veut traverser cette épreuve. Et donc la joaillerie, effectivement, je crois, a un avenir assez brillant.
C'est-à-dire que des gens sont revenus chez vous en vous disant « tiens, on peut peut-être pas se marier en ce moment, on va quand même se faire plaisir » ou « on peut pas faire une fête pour nos 40 ans de mariage, mais on va s'offrir le beau bijou, quitte à pas faire de fête, eh bien, on va célébrer autrement ce moment d'union ?»
Absolument. Célébrer les 10 ans, les 20 ans de mariage, éventuellement en rachetant d'ailleurs un solitaire. Et d'ailleurs, ce solitaire marque que voilà, la vie a avancé et qu'on a plus de moyens. Et puis, effectivement, on se marie quand même. On s'engage aussi. Donc, on a énormément de jeunes couples qui sont venus. Et d'ailleurs, comme on fait moins la fête, qu'on peut moins voyager, là aussi, l'investissement est encore plus important. Et puis, tout simplement, le témoignage à l'autre.
Donc, ça signifie qu'il y a peut-être de nouvelles clientèles qui est venue vous voir en ce moment. On ne peut pas mettre le budget dans le traiteur. On ne peut pas le mettre dans la fête. Donc, on va le reporter sur une belle bague, un beau bijou. Ça signifie qu'il y a des nouveaux clients.
Il y a des nouveaux clients. Et puis, le panier moyen, comme on dit habituellement, a fortement augmenté.
C'est-à-dire
En fait, on dépense plus, on investit plus. Et comme la joaillerie, c'est un objet d'investissement et c'est un objet de transmission, probablement que c'est aussi l'opportunité de penser déjà à la génération future et à ce qu'on va lui laisser.
Grâce à vous, on est dans l'histoire de la France. On le disait, vous êtes né avec Napoléon et Joséphine. C'est comme ça que la marque s'est développée. Qui est aujourd'hui, traditionnellement, la cliente Chaumet?
Je pense que la cliente Chaumet, au fond, elle a toujours été un peu la même. C'est une personne qui a envie d'un objet magnifique, évidemment, un objet de création, un objet virtuose, un objet de savoir-faire, mais aussi un objet de sens. C'est-à-dire que la joaillerie, c'est toujours un objet pour soi, parce qu'on aime se regarder et on aime se voir porter un beau bijou, mais c'est aussi un objet vers l'autre. Ça dit beaucoup de vous, un objet de joaillerie. Et donc, on a envie d'un objet qui vous distingue, qui vous caractérise, et puis qui porte du sens, qui porte de la culture. Voilà, ça, je crois que c'est un choix Chaumet.
Pendant assez longtemps, ça a été aussi une expression de la puissance. Avoir un beau bijou, avoir un beau diadème, ça mettait notre place dans la société. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quand même cette idée où on est plus dans de l'investissement patrimonial?
Alors, je pense que c'est les deux. C'est à la fois la puissance. Voilà, nous avons des clients, par exemple, en Asie, qui commandent des diadèmes pour marquer leur pouvoir, marquer leur puissance, marquer le fait qu'ils ont réussi. Ça, c'est toujours vrai.
Pour les porter ?
Pour les porter. dans des conseils d'administration, face à des assemblées d'actionnaires. Je sais que ça peut paraître bizarre.
Ça existe en ce moment, en 2020.
Ça existe en ce moment. On a des commandes spéciales pour des clientes qui veulent des diadèmes pour ces occasions très particulières qui incarnent justement ce que vous dites. Pouvoir, puissance, réussite.
Votre objectif, Jean-Marc Mansveld, c'est de faire grandir la marque. Comment fait-on grandir une marque en ce moment, en 2020 ? Enfin, 2021
Pour moi, le plus important pour nous, c'est vraiment d'être toujours fidèle à la maison. Fidèle à ce qu'elle est, fidèle à son fil conducteur.
Être fidèle, c'est quoi ? C'est raconter l'histoire ?
C'est raconter l'histoire.
C'est sortir des nouveaux produits aussi ?
Bien sûr, parce qu'une maison vivante, c'est aussi une maison qui crée. Il faut raconter l'histoire parce que c'est ça, la joaillerie, et c'est ça en particulier chez Chaumet. C'est ça, notamment, la raison de choisir Chaumet. Mais il faut créer, donc il faut innover, il faut inventer. Donc je dirais, pour moi, le plus important, c'est être fidèle à soi-même, voilà, être authentique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important pour développer une maison.
Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui le succès de Chaumet, un marque qui avait eu quand même pas mal de difficultés avant de re-rentrer dans le giron d'LVMH, on le disait tout à l'heure, à la fin des années 90. Cette histoire, Napoléon-Joséphine, vous êtes vendu principalement en Asie, c'est là vraiment votre marché de cœur et c'est là où vous connaissez les plus fortes croissances. Les Chinois et autres, ils adorent cette monarchie, cet empire français, et ça vous aide dans votre conquête du monde ?
Ah oui, incontestablement. Sur l'ensemble des marchés asiatiques, et effectivement la Chine en premier, c'est l'histoire de France. L'histoire Chaumet, c'est l'histoire de France. Et c'est l'histoire de la puissance, c'est l'histoire du pouvoir. C'est aussi une histoire d'amour extraordinaire. Puis l'objet emblématique de la maison, c'est le diadème. Le diadème, c'est à la fois objet de puissance, ce que vous disiez tout à l'heure, et puis c'est le couronnement de l'amour. Le tableau de David, c'est quand même le couronnement de Joséphine.
Jean-Marc Mansveld, vous êtes le directeur général de Chaumet et vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est 13h17 sur Europe 1.
À suivre des bijoux fabriqués en France, ils sont éthiques et c'est le pari de la joaillerie J'aime.
Oui, J'aime, J-E-M, une jolie marque de joaillerie qu'on va vous faire découvrir dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Il n'y a pas à dire, on se fait plaisir aujourd'hui avec Elisabeth dans La France bouge et on espère qu'on vous amène comme ça un petit peu de plaisir à la maison, un petit peu de brillant si on peut dire, puisqu'on parle de la joaillerie de luxe aujourd'hui avec notre invité Jean-Marc Mansveld, qui est le directeur général de Chaumet, l'une de nos plus belles maisons en la matière.
Et avec vous aussi Dorothée Contour, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes la fondatrice de J'aime, ça s'écrit J-E-M. Vous avez fondé votre entreprise il y a 10 ans et vous, votre ambition, c'est de proposer une nouvelle forme de joaillerie, une joaillerie très attentive aux préoccupations éthiques. C'est quoi la joaillerie éthique ?
Tout à fait. Alors nous, chez J'aime, donc, qui est le nom de notre maison de joaillerie, de son nom complet, Jewelry Ethically Minded, d'où le J-E-M. On a lancé cette nouvelle maison de joaillerie il y a 10 ans avec l'envie de proposer une joaillerie qui soit à la fois très contemporaine dans son style, mais aussi très moderne par son engagement durable et son engagement pour un progrès social et environnemental. Et ça passe notamment par des engagements forts sur toute la filière de production des bijoux et sur le choix des matières premières qu'on utilise. On a envie de proposer une joaillerie qui soit toujours pleine de sens, comme on en a parlé tout à l'heure, mais qui porte aussi des valeurs aussi tournées vers l'avenir et que chacun puisse s'approprier.
Donc je crois que dès le démarrage, concrètement, c'est notamment le sourcing de l'or, puisqu'on sait que de temps en temps, c'est pas très bien comment ça arrive, et surtout, on sait que c'est pas toujours dans des conditions extrêmement bonnes. Vous, c'est un point sur lequel vous avez voulu travailler dès le démarrage.
Ça a été vraiment le point de départ, et ça a été même la rencontre avec les premières filières d'extraction minière artisanale de l'or responsable, qui nous a donné l'envie de créer la maison J'aime. Toutes nos créations sont façonnées dans un or spécifique qui est certifié du label Fairmind.
Donc ça, c'est toute une filière qui garantit la transparence et la traçabilité de vos produits.
Tout à fait. Alors c'est un label, c'est un programme qui est porté par une ONG qui s'appelle ARM, Alliance for Responsible Mining, et qui transforme des communautés minières artisanales, donc de petite taille, ce qui permet d'en maîtriser l'impact environnemental, qui les forme et les transforme pour aboutir à une extraction minière de l'or, respectueuse des hommes et de la nature, et respectueuse surtout de l'ensemble des standards Fairmind, qui concernent à la fois le volet social, conditions de travail, conditions de sécurité, respect des droits de l'homme, etc. Également le volet environnemental, avec la maîtrise de l'impact de l'extraction sur l'environnement.
Donc cette démarche de transparence et de traçabilité, ça permet exactement de savoir d'où vient cet or. Et ça, c'est le cas depuis 10 ans. Vous pouvez très précisément...
Ça, c'est vraiment au cœur de l'innovation de ce qu'on a mis en place aussi il y a 10 ans. C'est-à-dire que nous, on va acheter notre or directement auprès de ces communautés Fairmind, avec qui on a des relations directes. Et on garantit à chaque fonte, à chaque étape de la production, sa traçabilité.
Un peu comme pour du commerce équitable, ça veut dire que vous l'achetez plus cher, par ailleurs, de façon à vous assurer également que la personne qui l'extrait a un juste revenu, au-delà de savoir que c'est bien extrait et que ça respecte les normes sociales, environnementales, etc. etc.
Exactement, ça respecte tous les principes du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on va acheter notre or au départ au cours de l'or, avec une garantie que 99% du prix du cours de l'or revient bien aux mineurs et non aux intermédiaires. Ce à quoi s'ajoute une prime de développement, la prime du commerce équitable, qui est de 4$ par gramme d'or. Et cette prime est investie dans des projets de développement humain des communautés.
Alors ça, c'est pour la production, j'ai envie de dire. Mais après, ce qui est aussi très intéressant et ce qui nous a plu, c'est que vous êtes un peu dans la même logique que Chaumet en étant plus récente, mais vous êtes dans une esthétique très... très épuré. Elisabeth me disait, c'est très architectural. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais c'est en tout cas ce qu'elle a eu comme impression.
C'est vrai que l'architecture est un vivier d'inspiration très fort de chacune de nos collections. On essaye dans notre style de trouver vraiment l'équilibre entre des lignes qui soient très épurées, très minimales, dans l'objectif d'être intemporel et d'être dans un bijou qui va durer toute sa vie, mais aussi très contemporaine. Et en même temps, d'avoir cette puissance des lignes. Et l'architecture est très forte pour ça. C'est vraiment une recherche d'harmonie et de force qu'on va retrouver dans chacune de nos collections.
Jean-Marc Mansvelt, vous êtes le directeur général de Chaumet. On parle de ces bijoux éthiques qui intéressent de plus en plus les consommateurs. Est-ce que chez Chaumet, cela fait aussi partie de vos préoccupations ?
Ah oui, comme vous dites, c'est indispensable, hein, parce qu'en plus, pour les jeunes générations, c'est presque une des premières questions.
Ah oui,
la fois d'ailleurs pour embaucher quelqu'un, comme d'ailleurs auprès des clients. Donc la maison est certifiée depuis 2005 RJC, hein, qui est une des grandes certifications internationales sur toutes les dimensions d'approvisionnement, d'éthique, respect de l'environnement. Et comme vous le disiez, nous appartenons aussi au groupe LVMH, qui lui-même est engagé dans un programme pluriannuel pour tout ce qui touche à l'approvisionnement, à la fois de toutes les maisons et de tous les métiers et de tous les fournisseurs.
Et vous dites que, par exemple, notamment les jeunes générations, quand elles viennent chez vous, l'une des premières questions, c'est de dire... D'où il vient ce diamant, par exemple ?
En tout cas, ils sont très précis et très insistants sur les questions. Voilà, c'est quoi la position de la maison ? C'est quoi son engagement dans la société ? Voilà, c'est quoi votre point de vue sur les diamants, sur l'or, etc.
Et tout ça, c'est récent. Ouais. Ces demandes, elles datent d'il y a plusieurs années ou là, récemment ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on avance, et plus ça fait partie de la conversation.
Ce qui est important par ailleurs chez vous, c'est qu'une fois que les pierres ont été vendues, vous avez une traçabilité là dans l'histoire qui est importante pour vous. Parce qu'il faut savoir où sont les pièces, parce que ce qui est un fer de lance de la maison, c'est aussi de les montrer régulièrement, de faire de grandes expositions. Donc même si au démarrage, l'extraction a sûrement posé problème pour toutes les marques de joaillerie, ce qui est important pour vous, c'est de savoir où sont vos pierres aujourd'hui.
Oui, où sont les pierres, où sont les pièces. Et c'est vrai que depuis 1780, nous gardons tout. Et donc, nous avons, Place Vendôme, la possibilité d'authentifier les pièces et de raconter leur histoire, aussi leur évolution, pour s'adapter au goût et aux différentes générations.
Dorothée Contour, fondatrice de GEM, je crois que vous défendez aussi la joaillerie française, et parce que tout est façonné en France chez vous.
100% de nos créations sont façonnées en France, dans notre atelier partenaire, qui est situé dans la région des Vosges, et qui a, depuis des décennies, ce savoir-faire français qu'on... très reconnu dans le monde entier.
Vous avez une boutique à Paris, vous comptez vous agrandir ou rester dans cette boutique de la rue d'Alger dans le premier...
La boutique du 10 rue d'Alger est vraiment la maison GEM, l'endroit où d'ailleurs toute l'équipe travaille aussi et où les clients peuvent nous rencontrer, où on fait également un certain nombre d'événements. On a ensuite à l'international quelques magasins qui présentent nos collections, comme très bientôt Browns à Londres ou un certain nombre de concept stores aux États-Unis.
Merci à vous, ça s'appelle GEM. Merci Dorothée Contour, vous êtes la cofondatrice de GEM.
Et Jean-Marc Mansvelt, on vous garde encore avec nous, vous êtes le directeur général de Chaumet. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et Europe 1, il est 13h26, allez direction la Place Vendôme, puisque toutes les joailleries ont pour point commun la Place Vendôme.
Toutes les plus belles marques sont là, mais pourquoi donc ? Comment est née cette Place Vendôme ? Je suis sûr que vous posez souvent cette question, nous on va y répondre.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, elle bouge et elle fait rêver, surtout aujourd'hui, cette France, et notamment à l'international, la France de nos grands joailliers. Et on parle avec l'une des plus belles maisons du genre aujourd'hui, la maison Chaumet, et notamment avec son directeur général, Jean-Marc Mansvelt, qui est notre invité. 80% des bijoux, même de très belles joailleries, sont plutôt vendus chez les joailliers, les bijoutiers du coin, si on peut dire, du quartier. Est-ce qu'il y a une peur, pour beaucoup de clients, d'entrer dans des maisons comme vous en se disant...
c'est pas pour nous. Ça va être hors de prix. Alors que, alors c'est cher, hein, mais les premiers prix sont aux alentours de 800 euros et il y a une gamme autour de 2000 euros. Il y a un vrai choix dans vos magasins. On est donc sur de l'ultra luxe, mais c'est possible quand même. Est-ce qu'on a la peur de pousser vos portes ?
Ah, je pense que c'est des maisons qui intimident, forcément, encore et toujours. Et alors, encore plus Place Vendôme. Venir Place Vendôme pour un client français, pousser la porte de notre maison, ça reste quand même un sujet. Donc, il nous appartient vraiment de rendre la maison plus visible et de traduire cette idée d'accessibilité.
Vous avez fait le choix de la distinction, puisqu'il y a à peine 70 magasins dans le monde. Est-ce que vous souhaitez rester sur ce rythme, c'est-à-dire être rare, ne pas être partout, pour qu'on puisse justement, pour qu'on puisse vous choisir ?
Ah oui. Et ça, c'est depuis l'origine. Hein. La caractéristique de la maison Chaumet, depuis le début, c'est des clients qui veulent faire un choix de distinction qui n'est pas ce que tout le monde porte et qui est vraiment quelque chose qui porte une culture, qui a un sens. Donc d'ailleurs, le style de la maison Chaumet, qui est tout en légèreté, tout en délicatesse. Donc pour nous, ça fait partie vraiment de l'histoire de la maison. On veut être authentique, on veut rester fidèle à ça et ne pas être partout.
Alors justement, vous parlez du style, Jean-Marc Mansvelt, le style Chaumet. Il ne ressemble à aucun autre, puisque lui aussi, c'est un style épuré. On a envie de dire chic, il a un petit pas de côté, sans que ce soit ostentatoire. On a l'impression que vous faites un mix en 2021 entre le joaillier de Napoléon et joaillier des influenceuses, si je peux caricaturer. C'est un peu ça ?
Ben oui. Il faut jouer avec les deux, il faut réconcilier
les
deux
dimensions.
Mais
c'est ça, vous jouez avec ces deux dimensions.
Oui.
Et c'est ce qui plaît, c'est là où vous allez trouver votre cible, j'ai envie de dire.
Ben en faisant ça, en fait, c'est une source éternelle de créativité. Pourquoi la maison a plus de 240 ans ? C'est parce qu'elle a été toujours dans son époque et en même temps, elle a été authentique, elle a été fidèle à ce qu'elle était. Et donc aujourd'hui, bah oui, les influenceuses, le monde digital est aussi une contribution à la modernité de la maison, à la créativité de la maison.
Vous travaillez beaucoup sur votre histoire. Il va y avoir cette année une grande exposition dans vos ateliers parisiens et notamment au 12 Place Vendôme, qui est le vaisseau amiral, si on peut dire ainsi, de la maison Chaumet, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ça va commencer le 10 avril. Une manière de vous rapprocher comme ça encore un peu plus de l'essence de la marque ?
Nous rapprocher de l'essence de la marque, raconter la naissance au plus haut de la maison avec effectivement étant joaillier de l'empereur et des impératrices, raconter cette histoire d'amour qui est une histoire à la fois extraordinaire et terriblement normale, terriblement ordinaire. Et pour nous, c'est important le partage.
C'est pour ça qu'elle va s'appeler, je crois, une histoire extraordinaire avec extra entre guillemets.
Exactement. Pour nous, c'est important le partage. Si on a la chance d'avoir tout gardé depuis 1780 et d'être confondu avec l'histoire de France, il faut qu'on le partage aussi aujourd'hui avec le public. Donc cette exposition sera gratuite, ouverte au public, sur réservation, 12 Place Vendôme.
En espérant qu'on ne soit pas confinés d'ici là, mais enfin bon, on va faire en sorte que le monde continuera à rouler à peu près normalement. Et quand on lit les interviews de vous, vous dites souvent « Nous sommes le seul joaillier présent dans tous les musées du monde ». Ça fait la fierté de la marque ?
En tout cas, c'est une caractéristique et incontestablement, ça lui donne beaucoup de valeur et puis ça montre qu'elle n'est pas banale.
Elle n'est pas banale, justement. Vous allez relancer là bientôt les bracelets acrostiches. Vous cartonnez en ce moment avec votre collection Lien. Hein. Il suffit d'aller voir aussi sur la page Instagram, on peut les admirer. On les voit de différentes tailles, en différents ors. Le lien, comme son nom l'indique, est-ce que ça signifie de garder le lien avec ce que l'on aime ? Et du coup, est-ce que les confinement, les couvre-feux, vous aident entre guillemets sur ce produit en ce moment. Est-ce que ça correspond à ce que l'on vit aujourd'hui ?
Ah oui, il y a vraiment énormément de demandes et énormément de clients qui nous téléphonent, qui appellent les magasins ou qui viennent s'ils le peuvent. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays où nous sommes représentés. Voilà, l'autre est important. Et le lien, bah le lien, voilà, c'est tout est dit.
Le lien, c'est aussi avec vos équipes, hein, puisqu'on ne s'improvise pas, joaillier, dans des maisons comme les vôtres. Hein. Vous travaillez en ce moment, je crois, avec seulement le 13e chef d'atelier en 240 ans d'histoire. Comment on attire les jeunes à ces métiers ? Est-ce que ce sont des métiers qui font rêver encore aujourd'hui ?
Ah, clairement, rentrer dans l'atelier, ça fait rêver. On le voit grâce au groupe avec les journées particulières où nous ouvrons tous les deux ou trois ans les maisons du groupe et notamment Chaumet. Le public est de plus en plus jeune et de plus en plus intéressé avec des questions. Je pense que le tangible, le savoir-faire, l'authenticité, voilà, le vrai travail de la main, c'est encore plus important aujourd'hui que ça ne l'était hier. Et ça intéresse les jeunes générations. Hein.
Alors, chaque jour dans La France Bouge, nous demandons à notre grand patron, notre grande patronne du jour, si vous avez des offres d'emploi dédiées aux jeunes, parce qu'on le sait, en ce moment, la période est compliquée. C'est compliqué d'arriver sur le marché du travail en 2020-2021. Est-ce que en ce moment, chez Chaumet, vous accueillez des apprentis ou même des CDI?
Oui, bien sûr. Alors, je ne vous cache pas qu'évidemment, en 2020, l'année a été compliquée et que nous avons dû un petit peu nous ajuster. Mais en moyenne, sur ces 5 dernières années, qui sont les années que je connais pour Chaumet, hein, puisque j'ai la chance d'être dans cette maison depuis 5 ans, nous avons recruté à peu près 40 personnes tous les ans. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'ambition de recruter une vingtaine de jeunes diplômés par an. C'est important pour nous. Nous gardons à la fois les vieux, si j'ose dire, ceux
qui ont le savoir-faire
et qui ont la connaissance, la continuité de la maison.
Il y a 3 générations qui travaillent dans vos ateliers,
c'est
ça ?
Ah oui, dans l'atelier, oui, absolument.
Et qui vont transmettre à ces jeunes apprentis. Oui. Là, cette année, vous en recrutez 40.
Alors, on va recruter 40 personnes et on va essayer de recruter une vingtaine de jeunes diplômés. Mais aujourd'hui, dans les 250 collaborateurs de la maison en France, nous avons une trentaine de jeunes qui sont soit en alternance, soit stagiaires.
Et il y a encore des formations aujourd'hui en France à vos métiers, ou c'est vous? Parce que, comme le rappelait tout à l'heure très bien Elisabeth, vous avez un style particulier, donc ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne peut s'apprendre que dans vos ateliers.
Non, c'est les deux. Il y a bien sûr typiquement la BJOP, qui est une des grandes écoles reconnues de formation, mais après c'est la pratique dans les ateliers avec les grands anciens.
Jean-Marc Mansvelt, vous êtes situé dans le prestigieux hôtel Chaumet, situé dans le prestigieux hôtel particulier du 12 Place Vendôme. Il a de quoi si spécial cet endroit? Quelle est sa particularité au 12 Place Vendôme?
D'abord, il est au centre, si j'ose dire.
C'est le milieu.
Non, plus sérieusement, il a aussi une particularité, c'est qu'au sein de cette adresse, il y a le plus ancien salon de la Place Vendôme. Il date de l'avant-révolution française et dans ce salon, il y a une histoire extraordinaire puisque au milieu du 19e, avant que nous nous y installions, en 1907, y vivait la comtesse Podoschka et elle y a accueilli les dernières semaines de sa vie, Frédéric Chopin, qui venait jouer dans ce salon, qui a composé sa dernière mazurkale, la 68 inachevée, qui est mort dans ce salon. Donc c'est un hôtel particulier qui a à la fois l'histoire de la France, mais aussi l'histoire de la culture et qui fait référence aux grands artistes. Il est habité.
Il est habité. D'ailleurs, il y a un très joli salon Chopin au 12 Place Vendôme.
Exactement.
Alors, la Place Vendôme, dans le monde entier, cette place est synonyme de haute joaillerie. Ce n'est qu'au 19e siècle que le joaillier s'installe Place Vendôme. Auparavant, ils étaient sur l'île de la Cité, Place Dauphine, et tout le long du fameux quai des Orfèvres. Justement, cette Place Vendôme.
Alors, cette Place Vendôme, d'où vient-elle? Pourquoi est-elle née? C'est Quentin Payet de l'équipe de La France Bouge qui nous retrace cette histoire.
Europe 1, La France Bouge. La saga.
Elle est, en France et dans le monde entier, le symbole du luxe, des plus grands joailliers, des bijoux les plus somptueux et les plus précieux. C'est la place Vendôme, au cœur de Paris. Tout commence en 1685. C'est Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV, qui travaille à ce moment-là sur le chantier du château de Versailles, qui dessine la place. Alexandre Gady, historien de l'architecture et professeur à l'université Paris-Sorbonne.
Mais la place Vendôme que nous connaissons n'est pas la place Vendôme de 1685. Cette première place qui a existé, pour des raisons politiques et économiques, a été abandonnée. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en fait la seconde place Vendôme qui a été dessinée par le même Jules Hardouin-Mansart, mais en 1699, qui a recommencé, en fait, il a repris sa copie. Et c'est là qu'est apparu l'octogone.
Elle s'est appelée place Louis-le-Grand, place des Conquêtes et même place internationale sous la Commune en 1871. Et pourtant, la postérité a retenu le nom d'une ville du Loir-et-Cher de 16 000 habitants, ou plutôt un titre de noblesse, car c'est la place Vendôme et non de Vendôme. Et il y a une explication à cela.
Il y avait là un hôtel, l'hôtel de Vendôme, qui avait appartenu à César de Vendôme, un bâtard d'Henri IV, qui avait, dont les héritiers ruinés avaient dû vendre l'hôtel à l'État. Elle rappelle le nom de ce qu'il y avait avant elle et qu'elle a effacé en se constituant sur le sol de Paris.
Au XVIIIe siècle, la place Vendôme est à la mode, la noblesse y habite et le ministère de la Justice s'y installe même en 1719 et il y est toujours actuellement. Au XIXe siècle, Paris s'agrandit, la place perd de son charme et de son attrait au profit de nouveaux quartiers et les élites déménagent. Des hôtels de tourisme s'installent alors dans les murs des hôtels particuliers, dont le fameux Hôtel Ritz en 1898. L'endroit devient un quartier international et d'affaires, et les joailliers y voient une aubaine. Ils passent de l'île de la Cité, du fameux quai des Orfèvres, à la place Vendôme.
Et donc ces joailliers vont se regrouper dans ce quartier central d'affaires, où il y a une clientèle internationale avec les hôtels, autour de la place Vendôme. Le premier qui s'installe en 1812, c'est Mitto. Le joaillier de Napoléon et de l'impératrice. Puis bien sûr, ensuite, ceux qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein, Cartier, Van Cleef, Boucheron et Chaumet en 1907. Donc on voit comment, progressivement, il y a intérêt à se regrouper. Et si vous ajoutez à ça la mode, hein, qui est aussi dans le quartier, bah, on voit comment, à partir du milieu 19e, se cristallise la place Vendôme comme lieu du chic et de l'excellence de Paris pour ce qui est du luxe et des arts.
Si aujourd'hui la place est synonyme de luxe et de chic, elle a toujours été un endroit de commerce où l'on fait des affaires. Au XVIIIe siècle, la foire Saint-Ovid occupait les lieux. Et actuellement, ce sont pas moins d'une dizaine de bijoutiers et d'horlogers de luxe qui y sont installés. Et avec un prix au mètre carré d'environ 15 000 euros, la place Vendôme est l'un des endroits les plus chers de Paris.
C'était la saga du jour de cette place Vendôme racontée par Quentin Payet. De ce qu'on entend, Jean-Marc Mansfeld, on ne peut pas être un grand joaillier français si on n'est pas place Vendôme.
Ah oui, c'est la référence au monde. Paris, c'est quelques lieux mythiques, la place Vendôme en fait partie, et la place Vendôme, c'est vraiment le centre de la création de la joaillerie. Et lorsque, dans ce très intéressant reportage, on parlait de Nitto, c'est le fondateur de la maison. Donc effectivement, notre première adresse, c'était ce qui est aujourd'hui le Ritz, le 15, qui était l'hôtel particulier du fondateur du temps du Premier Empire.
Jean-Marc Mansfeld, directeur général de Chaumet, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1,
il est 13h41.
Allez, maintenant direction les trophées Europe 1, la France bouge. Une idée, un projet et un pitch dévoilé en direct.
Oui, aujourd'hui ça s'appelle la crème libre, une marque de soins naturelle et rechargeable.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge chaque jour. Elle, où il tente de vous convaincre, vous, nos auditeurs, mais également Nathalie Carré de la CCI ou notre grand témoin du jour, Jean-Marc Mansfeld, qui est le directeur général de Chaumet, qui, attention, connaît très très bien le secteur du jour, mais on ne va pas en dire plus.
Ah oui, oui, oui. Et vous mettez votre petite casquette de coach là maintenant, Jean-Marc Mansfeld, parce que nous allons écouter notre pitch du jour. Chaque jour, on le voit dans la France bouge, même en pleine crise, ils osent se lancer ou elles osent se lancer comme vous, Véronique Sussmann. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous. Vous êtes la fondatrice de la Crème Libre, une marque de soins naturels et français. Ils sont 100% rechargeables. Vous êtes basée à Paris, mais originaire d'Argentine. Vous les avez lancés, votre projet, en octobre 2019, mais commercialisé là, il y a quelques mois, là, en décembre. Quels sont vos produits? Vous allez tout nous dire, vous avez une minute.
Merci pour l'invitation et au plaisir de vous raconter l'aventure de la Crème Libre. La Crème Libre est née d'un constat des consommatrices. Quand j'ai découvert qu'en achetant un produit cosmétique, 50% de coût de ces produits à la sortie de l'usine, ils venaient de l'emballage. On s'est dit que ce n'était pas possible, qu'aujourd'hui, il fallait qu'on ait beaucoup de plus de transparence vis-à-vis des consommateurs. Et notre idée, c'était de séparer les contenus et les contenants. C'est pour ça que la Crème Libre, c'est l'association d'une recherche des soins dans laquelle on a réduit à le strict minimum l'emballage. Aujourd'hui, pour nous, il pèse 5% du coût du produit. Et d'un autre côté, proposer un pot qui devient un objet de décoration et qu'on peut garder à l'infini. Trois autres piliers font le cœur de notre marque, notre engagement sur la naturalité. Il n'y a pas d'ingrédients controversés ni d'ingrédients de la pétrochimie dans nos produits. Nos produits répondent aussi à un rituel très simple pour aller contre la hypersegmentation du marché. Et ils sont inclusifs, ils seront tous dans la famille. L'idée, c'est que notre peau soit dans la salle des vins et que tout le monde puisse aller dedans.
Moi, je dois vous couper, je suis désolé. Mais en ce moment, je trouve que je suis un peu trop sympa. Je laisse tout le monde finir alors qu'il faut tenir la minute, logiquement.
Emmanuel. Alors, Véronica, je vous présente Nathalie Carré. Merci pour votre pitch. Bonjour Nathalie.
Bonjour. Ah, mais ça fait deux fois maintenant. Bonjour Elisabeth, bonjour Véronica, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie Carré, elle est en charge de l'entrepreneuriat, la CCI. Elle analyse les dossiers de chaque candidat ou candidate. Quelles sont les forces et les faiblesses de la Crème Libre, Nathalie?
Oui, déjà trois forces. Alors les peaux sont vraiment hyper jolies, ils s'intègrent vraiment dans toutes les salles de bain.
Les peaux POTS, hein?
Les
peaux, après, on verra ce que ça donne.
Alors, on verra après, effectivement. Et les produits de beauté, le packaging des produits de beauté est sobre, mais très design. Vous avez un vrai accompagnement dans le choix. Vous expliquez les textures, vous prouvez le côté naturel avec le chapitre anatomie du produit. Je trouve ça très sympa. La possibilité de scanner le code barre des produits sur Yuka, par exemple. Les vidéos d'utilisation. Et puis le prix des crèmes à 29,90€, qui est très accessible. Bon. Je mettrai un point amélioré, une suggestion. Alors, bizarrement, le prix, 29,90€, c'est pas cher pour une crème. En revanche, pour un démaquillant, ça peut bloquer quelques personnes, puisque vous avez mis tous les produits à 29,90€. Et puis une idée, pour aller au bout du libre, parce qu'on a toutes dans nos salles de bain aujourd'hui un pot de crème commencé, voire des stocks, puisque ça a été les soldes, et qu'on risque de vous oublier en fait, au moment de refaire le plein, vous pourriez proposer les pots avec les contenants des recharges, mais sans produit, pour qu'on puisse mettre notre crème actuelle avant de basculer vers la vôtre. Et puis demain, mixer entre des produits de votre gamme et ceux, peut-être qu'on préfère d'autres marques.
C'est intéressant ce que nous vous dit Nathalie Carré. Hein, qu'en pensez-vous, Véronica?
C'est des très bonnes idées. Et là, on est un livre ouvert, comme on commence notre projet. Toutes les idées sont les bienvenues.
Vous venez d'arrêter votre campagne de participation chez
notre campagne
de financement participatif chez Ulule le 15 janvier.
Exactement, les 15 janvier. Et là, on vient de mettre en ligne notre site. Sur lesquels on continue à faire des préventes parce que nos produits seront disponibles qu'au mois de mars.
Jean-Marc Mansuel, vous êtes aujourd'hui donc le patron de Chaumet, on l'a bien compris depuis le début de l'émission, mais vous avez eu une carrière avant. Vous êtes resté, je crois, une quinzaine d'années chez L'Oréal, numéro un mondial, bien évidemment, de la beauté. Vous êtes occupé, je crois, justement, de la division crème.
Vous y connaissez en crème.
Donc là, vous avez un petit conseil à donner ?
Oh bah, je ne sais pas s'il y a un conseil, parce que ce serait très prétentieux, mais en tout cas, j'admire le fait de créer, j'admire le fait d'être enthousiaste et j'admire le fait d'avoir un point de vue extrêmement précis. Je pense que le monde est tellement encombré, en particulier dans cette catégorie, qu'il faut avoir un angle très précis. Et il n'y a que comme ça qu'on peut émerger. Et en plus, c'est magnifique. Et ce que vous racontez, la façon dont vous le racontez, je trouve que ça donne envie.
Donc vous validez.
Ah oui.
Merci à vous, en tout cas, Véronica Sussman. Ça s'appelle La Crème Libre, une marque de soins naturels français 100% rechargeable.
Nathalie Carré, on vous remercie aussi. On vous dit à demain si vous aussi vous voulez comme ça candidater. Une adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Jean-Marc Mansvelt, directeur général de Chaumet, vous restez encore un petit peu avec nous, suite et fin de notre émission.
Europe 1, 13h49.
Allez, dans un instant, demain au travail, notre société change, nos entreprises aussi.
Oui, et on va passer un coup de fil à la DRH du groupe SQLI. Là-bas, on forme les collaborateurs, on continue.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ça passe chaque jour trop vite, cette émission de La France bouge en direct sur Europe 1 de 13h à 14h. Dernière partie de votre émission, nous sommes toujours avec Jean-Marc Mansuel, qui est le directeur général de Chaumet.
Et chaque jour dans La France bouge, nous passons un coup de fil à un patron d'une entreprise ou un DRH qui nous raconte comment on s'adapte à la crise afin d'améliorer le bien-être des salariés, comme vous, Sylvie Verstraten. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la DRH du groupe SQLI. C'est une entreprise française qui existe depuis 30 ans. Vous concevez des sites de e-commerce, 2200 collaborateurs partout dans le monde. Vos salariés, vous avez remarqué, ils ont des métiers très prenants. Alors, il y a un an, vous avez mis en place une plateforme de e-learning pour qu'ils puissent se former à n'importe quel moment, n'importe où. C'est bien cela ?
Oui, c'était exactement cela. On s'est rapproché d'un spécialiste du domaine Corp Academy. Et donc, on a créé cette fameuse plateforme pour l'ensemble de nos collaborateurs, à travers le monde aussi, hein, puisque c'est accessible par tous, quelle que soit sa langue, autour de différentes thématiques, et plutôt des thématiques qui concernent le management de projet, qui est notre spécialité, mais aussi des thématiques de management. Et puis, plus récemment, on s'est adapté à l'actualité de management à distance, de télétravail. Voilà.
Et ça marche ?
Ça marche très bien.
Quel résultat ?
Alors, quel résultat ? On a plus de 1312 exactement collaborateurs qui se sont connectés en un an, ce qui est beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 89% des cours qui sont terminés, ce qui est un très bon résultat. Donc, ça veut dire qu'ils s'y intéressent et ça, surtout, ça répond à leurs besoins.
Ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez voulu les motiver parce que je crois que vous avez créé des parcours de formation avec des labels à atteindre, un peu comme si on était dans un jeu vidéo. Si on veut continuer, il faut réussir à aller au monde d'après et valider chacun des mondes.
Exactement. Donc, SQLI est une entreprise dédiée au monde du digital. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi avec nos collaborateurs et aussi au travers du jeu. Donc, on a créé deux labels. Un label qu'on a appelé les Team Leader RH, donc qui est plus orienté sur le management et le suivi RH des collaborateurs. Et donc, à la fin de ce label, eh bien, on est diplômé. Et puis, on a créé un label management de projet avec 13 modules. Et là aussi, on peut ensuite gagner, je dirais, son titre de manager de projet SQLI. Et puis aussi, les collaborateurs peuvent se défier entre eux. Et c'est ça qui est amusant. Et c'est là aussi qu'on l'a abordé par le jeu, créer des concours entre eux et des défis.
Mais on est après la conclusion. C'est-à-dire que si un salarié qui n'est pas manager suit, par exemple, ce programme, est-ce que grâce à ça, vous pouvez vous dire, vous, après, bah ouais, c'est bon, t'as réussi, t'as coché toutes les cases, oui, et tu peux donc devenir manager.
Alors, il y a autre chose aussi pour devenir manager, mais c'est un point d'entrée exactement. Et ce qui est important, c'est se former aux techniques du management pour ensuite, en effet, les mettre en pratique.
Jean-Marc Mansvelt, directeur général de Chaumet. Là, on vient donc d'entendre cette directrice des ressources humaines du groupe SQLI. Chez vous aussi, il y a beaucoup de salariés qui sont en télétravail, on imagine, en ce moment. Est-ce que chez Chaumet, vous mettez en place aussi des programmes ou des initiatives pour maintenir ce lien, peut-être les former? Est-ce qu'il y a des choses mises en place ces derniers mois?
Ah oui, des choses multiples, parce que l'enjeu du lien, alors qu'on n'est physiquement pas toujours ensemble, à part l'atelier typiquement, c'est absolument essentiel. Donc on a fait beaucoup d'efforts, notamment dans la formation, d'ailleurs beaucoup menés par les équipes elles-mêmes, qui partageaient leurs bonnes pratiques, voilà, des séances assez... où ça rigolait, oui, c'était à la fois très riche et en même temps ça rigolait beaucoup, donc c'était très important aussi. C'est très important. On a mis aussi à disposition de nos collaborateurs des plateformes, notamment des plateformes médicales. S'ils avaient le moindre doute pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille, ils pouvaient immédiatement appeler et décrire des symptômes ou une situation qui pouvait être psychologique ou simplement médicale.
Donc d'accompagnement médical ou psychologique.
Oui, oui. Et on a vraiment demandé à tous nos managers d'être très très proches de leurs équipes. On n'a pas du tout cru que c'était pyramidal, mais au contraire, voilà, la proximité allait peut-être nous permettre de ne pas passer au travers de quelque chose.
C'est vrai qu'on entendait ce matin sur Europe 1 beaucoup de chefs d'entreprise dire on est inquiet quant à un éventuel troisième confinement pour la psychologie de nos salariés. Vous sentez que tout le monde est un peu à bout, y compris dans des maisons comme les vôtres?
Ah, je pense que on n'a pas envie d'un troisième. Et à l'opposé, là, on a eu quelques personnes qui sont revenues parce que, voilà, recréer le lien. Et vous me croirez ou pas, mais de temps en temps, on entend des grands rires dans notre bâtiment parce que des personnes se retrouvent. L'impression de ne s'être pas vu depuis un an. Et en fait, c'est assez extraordinaire. Donc oui, j'espère qu'on va pouvoir continuer tout doucement.
À continuer de rire.
Voilà.
Merci à vous. En tout cas, merci Sylvie Verstraten. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe SQLI. Vous nous avez bien expliqué combien la formation continue était importante en ce moment.
Et combien ça peut se faire également en rigolant. Jean-Marc Mansvelt, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette heure sur Europe 1.
Je rappelle que vous êtes le
patron de Chaumet.
Eh bien, demain, Emmanuel, nous, on va se retrouver demain.
Oui, on va parler de showroom privé demain. Ce sera une toute autre ambiance. C'est l'un des rois du déstockage. Et là aussi, ça cartonne en ce moment.
Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.